Chapitre 14. Pendant tout ce temps, devinez ce qu'avait fait le roi. Il était devenu amoureux. Oh, mais rassurez-vous, amoureux comme pouvait l'être le roi. Christine de Suède disait de lui que, des femmes, il n'aimait que l'espèce. Au reste, avec son caractère triste et ennuyé, Louis XIII ne pouvait se passer ou d'une maîtresse ou d'un favori. Seulement, tout au contraire de Properce, il était plus jaloux de Galus que de Saint-Cyr. Et de qui le roi était-il devenu amoureux? Excusons-le s'il a besoin d'excuses. D'une personne charmante, de Mademoiselle Louise de Lafayette, cinquième fille de Jean de Lafayette, seigneur de Hautefeuille, et de Marguerite de Bourbon-Bussée. Ce fut pendant le voyage que la reine fit à Lyon, en 1630, que cette passion prit naissance. Bassompierre raconte qu'étant allé, à propos de la campagne, prendre les ordres de Sa Majesté, il trouva à son grand étonnement le roi parmi les dames et, contre sa coutume, galant et amoureux. Mademoiselle de Lafayette, qui avait eu sous les yeux des exemples du peu de constance de la faveur royale, comprit qu'elle ne devait pas appuyer son avenir sur cette constance et ne s'occupa que de distraire Sa Majesté afin de ne faire aucun ombrage à la politique de Monsieur de Richelieu. Malheureusement, elle se trouva sur la route du père Joseph. Le célèbre Capucin avait remarqué la haine que le roi portait à son ministre et, d'un génie presque égal à celui de Richelieu, il s'était dit que, si Richelieu tombait en le laissant debout, ce serait sur lui, Joseph, que s'appuierait ce roi faible et qui ne pouvait marcher sans soutien. Mais il lui fallait d'abord être cardinal pour aller de pair avec celui qui avait été son maître. Dans l'espoir d'en arriver là, il offrit au pape Urbain VIII de faire conclure la paix avec la maison d'Autriche et d'établir par le traité, sinon une supériorité des catholiques sur les protestants, au moins une complète égalité entre eux. Ces ouvertures flattaient le pape, qui y voyait un moyen d'agrandir la maison Barberini dont il était. Seulement, le père Joseph avait besoin d'une recommandation du roi. Comment obtenir cette recommandation? L'éminence grise songea tout naturellement à Mademoiselle de Lafayette, qui était quelque peu sa parente. On fit envisager à la pauvre enfant que servir les projets du père Joseph contre ceux du cardinal, c'était rendre la paix à la France. Si elle y réussissait, elle serait l'ange béni de toute l'Europe. Mademoiselle de Lafayette vit une mission providentielle à remplir, elle s'y dévoua au nom de l'humanité. Le roi fut tout étonné qu'un jour, pour la première fois, Mademoiselle de Lafayette lui parla politique. Il voulut changer la conversation, mais Mademoiselle de Lafayette y revint obstinément. De son côté, le père Joseph commença de démasquer ses batteries et de tirer à boulets rouges sur le cardinal. Le faible Louis XIII vit une conspiration dans cette harmonie de sentiments politiques du Capucin avec sa maîtresse et, selon son habitude, il alla tout dire à Richelieu. Richelieu se sentit trahi par son bras droit. Il fit venir le père Joseph, lui reprocha sa perfidie, se mit à la traverse de ses projets et résolut d'éloigner Mademoiselle de Lafayette. C'était contrecarrer les inclinations du roi, c'était briser son bonheur privé aux dépens de ses projets politiques, c'était une nouvelle lutte à entreprendre. Mais Richelieu savait comment on sortait de ces sortes de luttes et le passé lui répondait de l'avenir. Il s'adressa au confesseur de Mademoiselle de Lafayette, au père Carré, qui bientôt commença de prêcher la retraite à sa jolie pénitente, lui expliquant combien, loin du monde, son âme trouverait une voie facile pour monter au ciel. Mademoiselle de Lafayette fit part au roi des insinuations du père Carré. « Bon, dit le roi, je le connais, le bon père, il est un de ces sots que l'on gagne aisément dès qu'on leur dore une chapelle. » Le père Carré perdit donc son éloquence, ou peut-être cessa-t-il de la prodiguer inutilement, la chapelle du Saint étant dorée. Richelieu avisa. Le roi avait tiré de sa garde-robe et fait l'un de ses premiers valets de chambre, un nommé Boisinval. Le cardinal fit venir cet homme et le menaça de toute sa colère s'il ne faisait pas son espion près du roi et de Mademoiselle de Lafayette. Boisinval, en sa qualité de valet de chambre, savait lequel de Louis XIII ou de Richelieu était le véritable roi. Il se donna corps et âme au cardinal, s'obligeant non seulement à lui rapporter les paroles et les actions des deux amants, mais encore à lui donner connaissance des lettres et des billets qu'ils s'écrivaient. Il exécuta fidèlement sa promesse. À partir de ce moment, Richelieu se trouva littéralement en tiers avec les deux jeunes gens. Malheureusement, le cardinal alla trop loin. Il ne se contenta pas de savoir ce qui se disait dans le tête-à-tête, de lire ce qui s'écrivait pendant l'absence, il supprima certains billets, il en altéra d'autres. De sorte qu'il y eut brouille, mais à la suite de la brouille, explication. L'explication amena la découverte de la vérité. Boisenval fut chassé. Mademoiselle de Lafayette sentit alors de quel poids pesait l'inquisition du cardinal et, d'elle-même, elle commença à parler de la retraite. Elle y était portée par un double sentiment. La piété, d'abord, et ensuite le dégoût que lui inspirait la faiblesse du roi. Il ne fallait donc que quelques instances nouvelles pour déterminer cette Madeleine sans péché à quitter le monde. Ces instances, on les fit faire par la marquise de Senecé, première dame d'honneur de la reine, amie de Mademoiselle de Lafayette, et par l'évêque de Limoges, son oncle. Quant au père Joseph, il était malade et retiré au couvent des Capucins. Dieu l'avait puni. Depuis la trahison qu'il avait commise envers son patron, sa santé s'était toute dérangée et il ne se remit jamais bien. Mademoiselle de Lafayette se décida donc à plier sous le vent qui la poussait vers ce qu'on appelait le port, c'est-à-dire vers le couvent de la Visitation. Elle y entra au commencement du mois de mars de l'an 1637. Cependant, le roi continua d'aller la voir. C'est à ses visites au couvent de la Visitation qu'il faut attacher la naissance du roi Louis XIV. Touché du bout des doigts à ce mystère de la naissance du grand roi, l'histoire brûle. Le 5 décembre 1637, le roi alla faire au couvent de la Visitation une visite à Sœur Angélique. Sœur Angélique était le nom que portait Mademoiselle de Lafayette depuis qu'elle s'était retirée du monde. Une des prérogatives attachées au titre de roi, de reine ou d'enfant de France était d'avoir accès à tous les couvents et de converser librement avec les religieuses. Le roi Louis XIII conversa donc librement avec Sœur Angélique. Ce qui fut dit dans cette conversation, nul ne le sut jamais. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en sortant du couvent, le roi paraissait fort pensif. Il faisait, en outre, une affreuse tempête mêlée de pluie et de grêle, une obscurité à ne pas voir à quatre pas devant soi. On était venu de Grosbois, car depuis longtemps le roi n'allait plus au Louvre et n'avait plus aucun rapport avec la reine. Le cocher demanda si l'on retournait à Grosbois. Louis XIII alors parut faire un grand effort sur lui-même et, après un instant de silence, « Non, dit-il, nous allons au Louvre. » Et le cocher prit rapidement le chemin du palais, enchanté qu'il était de n'avoir pas quatre lieues à faire par un temps pareil. On arriva au Louvre. À la vue de son époux, la reine se leva avec un étonnement réel ou simulé. Elle salua respectueusement Louis XIII. Louis XIII alla vers elle, lui baisa la main et d'une voix contrainte ou simplement embarrassée, « Madame, lui dit-il, il fait si mauvais temps que je ne puis retourner à Grosbois. » Je viens donc vous demander un souper pour ce soir et un gîte pour cette nuit. Ce me sera un grand honneur et une grande joie d'offrir l'un et l'autre à votre majesté, dit la reine. Et je remercie Dieu maintenant de cette tempête qui m'a tant effrayée tout à l'heure. Ainsi Louis XIII, pendant cette nuit du 5 décembre 1637, partagea non seulement le souper, mais encore la couche d'Anne d'Autriche. Le lendemain matin, il partit pour Grosbois. Était-ce un hasard qui avait amené ce rapprochement entre le mari et la femme? La tempête avait-elle véritablement conduit Louis XIII au Louvre, ou Mademoiselle de Lafayette avait-elle usé de son influence pour le pousser dans le lit de sa femme? La chose était-elle convenue d'avance entre Anne d'Autriche et Sœur Angélique, et avait-on, en termes de magie blanche, fait prendre à Louis XIII la carte forcée? Quoi qu'il en soit, cette nuit fut une nuit mémorable pour la France et même pour l'Europe. Car 9 mois après, heure pour heure, Louis XIV devait venir au monde. La reine s'aperçut bientôt qu'elle était enceinte. Et cependant, elle ne parla de cette grossesse que le 11 mai 1638. Elle venait de sentir remuer l'enfant. À qui en parla-t-elle ? À Monsieur de Chavigny d'abord. Monsieur de Chavigny était ministre d'État et néanmoins, chose singulière, la reine avait toujours eu à se louer de lui. Elle crut donc devoir le favoriser le premier de cette confidence. Monsieur de Chavigny s'achemina vers l'appartement du roi. Le roi, par hasard, était au Louvre. Sa Majesté allait partir pour la chasse au vol. Aussi, craignant d'être retardé par son ministre, son premier mouvement fut-il de froncer le sourcil. « Eh, qu'avez-vous à me dire, monsieur ?» demanda Louis XIII. « Affaire d'État, cela ne me regarde point. Cela regarde le cardinal. » « Sire, dit monsieur de Chavigny, je viens vous demander la grâce d'un pauvre prisonnier. »« La grâce d'un prisonnier ?» répéta le roi. « Cela ne me regarde pas, monsieur de Chavigny. Cela regarde le cardinal. Demandez-lui donc cette grâce, car le prisonnier doit être son ennemi et, par conséquent, le nôtre. » Et, faisant un mouvement vers la porte, il indiqua à ceux qui devaient l'accompagner qu'il les invitait à le suivre. « Sire, dit Chavigny, insistant, la reine avait pensé qu'en faveur de la nouvelle que je vous apporte, sa majesté ferait quelque chose pour son protégé. » Ce protégé, c'était le pauvre Laporte, tenu en prison pour crime de fidélité. Laporte, vous vous rappelez, cher lecteur, celui qui veillait dans les corridors tandis que Madame de Chevreuse introduisait Buckingham chez la reine. « Et quelle nouvelle m'apportez-vous ? » demanda le roi. « La nouvelle que la reine est enceinte, sire !» répondit Chavigny. La reine enceinte ? S'écria le roi. Si la reine est enceinte, ce doit être de la nuit du 5 décembre. Louis XIII n'était point un monarque avec lequel il put y avoir de confusion. Je ne sais quelle nuit, sire, reprit Chavigny, mais ce que je sais, c'est que Dieu, dans sa miséricorde, a regardé le royaume de France et a fait cesser la stérilité qui nous affligeait tous. Êtes-vous bien sûr de ce que vous me dites là, Chavigny ? Demanda le roi. Aujourd'hui même, sire, la reine a senti remuer l'enfant, et comme il paraît que votre majesté lui a promis, le cas échéant, de lui accorder la grâce qu'elle lui demanderait, elle vous demande, sire, de faire sortir de la Bastille Laporte, son ancien valet de chambre. C'est bon, dit le roi. Si nous avons promis, nous tiendrons notre promesse. Puis, se tournant vers les seigneurs de sa suite, « Messieurs, dit-il, ce n'est qu'un petit retard pour notre chasse. Allez m'attendre en bas, tandis que moi et Chavigny, nous passerons chez la reine. » Les courtisans sortirent tout joyeux. Le roi et Chavigny passèrent chez la reine. La reine était dans son oratoire. Le roi y entra seul. Chavigny resta dans la pièce attenante. Au bout de 10 minutes, le roi sortit. Il avait le visage tout radieux. « Chavigny, dit-il, c'était vrai. Dieu veuille maintenant que ce soit un dauphin. Ah, comme vous en rageriez, mon cher frère !»« Et la porte, sire ? » demanda Chavigny. « Il sortira demain de la Bastille, mais à la condition qu'il se retirera à Saumur. » Le lendemain, 12 mai, M. Leras, secrétaire des commandements de la reine, se présenta à la Bastille, accompagné d'un commis de M. de Chavigny. Il fit signer à la porte la promesse de se retirer à Saumur. La porte signa, et le 13 au matin, il fut mis en liberté. Ainsi, le premier mouvement de Louis XIV dans le sein de sa mère ouvrit les portes de la Bastille à un innocent. Nous venons de raconter les nouvelles officielles. À présent, rapportons les cancans de la chronique privée. Il est inutile de dire que 1000 bruits étranges se répandirent sur cette conception inattendue, venant 22 ans après le mariage, 17 ans après sa consommation. On assurait que la reine avait été parfaitement convaincue que la stérilité qu'on lui reprochait ne venait point d'elle. Ainsi, outre une première couche qu'elle avait faite en 1624 pour avoir sauté un fossé en courant avec Madame de Chevreuse à travers les prairies de Saint-Cloud, elle se serait aperçue, vers l'année 1636, qu'elle était enceinte, mais trop tard pour que le roi pût prendre date. Cette grossesse, dira-t-on, avait été heureusement cachée au roi. Là est peut-être la clé de ce grand mystère qui a préoccupé tout le XVIIIe siècle, le mot de cette énigme qu'on appela l'homme au masque de fer. La disparition de ce premier enfant, qui, selon les mêmes bruits, aurait été un garçon, avait donné de graves regrets à Anne d'Autriche, d'abord comme mère, ensuite comme reine. Le roi, plus malade de jour en jour, pouvait mourir tout à coup, et la reine se trouvait veuve, exposée à la vieille haine de Richelieu. Or, nous l'avons vu, Richelieu s'était donné la peine de dire lui-même à Anne d'Autriche ce qu'il fallait faire pour éviter ce désagrément. Aussi, à peine, disait-on toujours, s'aperçut-elle de sa troisième grossesse, qu'elle résolut d'en tirer parti en faisant accroire à Louis XIII qu'il y était intéressé et en utilisant le fruit de cette grossesse, si c'était un garçon, comme héritier présomptif de la couronne. La scène qui se serait passée au couvent de la Visitation et que nous avons racontée n'aurait été dans ce cas que le prologue d'une pièce déjà faite. Des indiscrétions verbales et même écrites du vieux Guitaut, capitaine des gardes de la reine, corroborèrent ces bruits. M. de Guitaut avait raconté que, pendant cette mémorable soirée du 5 décembre, ce n'était pas le roi qui avait eu l'idée d'aller au Louvre, mais bien la reine qu'il avait envoyé chercher deux fois au couvent de la Visitation. Ainsi, ce serait de guerre lasse, et non pas de sa propre volonté, que Louis XIII se serait rendu au Louvre. Quant au père de l'enfant, on indiquait d'un accord unanime le cardinal de Mazarin. Et cela devint par la suite d'autant plus vraisemblable que, Louis XIII mort, Mazarin se maria presque aussi ostensiblement avec Anne d'Autriche que, Marie-Thérèse morte, Louis XIV se maria avec Madame de Maintenon. On sait qu'aucune loi canonique ne s'opposait à ce mariage, Mazarin étant cardinal mais n'étant pas prêtre. Il était d'habitude à cette époque de faire tirer l'horoscope des enfants royaux. Richelieu, plus intéressé que personne à savoir quelle serait la destinée de celui qu'Anne portait dans son sein, avait déclaré qu'il ne connaissait qu'un homme capable de révéler d'une façon infaillible les mystères de l'avenir. Cet homme, c'était ce jacobin espagnol nommé Campanella. On s'informa de ce qu'était devenu le sudit Campanella, il avait quitté la France. Le cardinal fit prendre des renseignements sur lui. Il apprit que Campanella, ayant eu maille à partir avec l'Inquisition italienne, était prisonnier du Saint-Office et attendait son jugement dans les cachots de Milan. Richelieu demanda sa liberté avec tant d'instance qu'elle lui fut accordée. Il était temps, le pauvre jacobin sentait passablement le roussi. C'était la seconde personne que Louis XIV fit sortir de prison avant d'être venu au monde. On sut que Campanella était acheminé vers la France. La reine n'avait donc plus qu'à accoucher. Ce fut le dimanche 5 septembre, vers 5 heures du matin, que le roi fut averti par la demoiselle Philandre que la reine, qui, depuis la veille à 11 heures du soir, était dans les douleurs de l'enfantement, allait probablement être délivrée. Il se rendit auprès d'elle. À 11h30 du matin, la sage-femme annonça que le royaume de France ne tomberait pas, cette fois encore en quenouille, la reine étant accouchée d'un garçon. Louis XIII prit à l'instant même des mains de la sage-femme l'enfant tel qu'il était et alla à la fenêtre en criant aux gens qui étaient rassemblés sous le balcon « Un fils, messieurs, un fils !» Cela se passait au château de Saint-Germain. 5 minutes après, on savait la nouvelle à Paris, des télégraphes ayant été disposés tout le long de la route. Le cardinal était à Saint-Quentin lorsqu'arriva l'heureux événement. Il écrivit au roi pour le féliciter et l'invita à nommer le dauphin Théodose, c'est-à-dire Dieudonné. Le roi ne fit point la guerre à la mauvaise intention. Seulement, il décida que le dauphin s'appellerait Louis. Par le même courrier, Richelieu félicitait la reine. Mais sa lettre était courte et froide. « Les grandes joies ne parlent point, » disait-il. Le lendemain même de l'accouchement de la reine, Campanella était à Saint-Germain. Il demanda de retarder l'horoscope jusqu'à l'arrivée du cardinal. Le cardinal arriva. Campanella, comprenant quelle immense responsabilité il allait assumer sur lui, aurait bien voulu gagner encore du temps. Mais Richelieu lui fit entendre qu'il ne l'avait pas tiré pour rien des prisons de Milan. On prit donc jour et heure. Le jour et l'heure arrivés, on introduisit Campanella près du dauphin. Il lui fit ôter jusqu'à la chemise et l'étudia attentivement. Puis, l'ayant fait habiller, il s'en revint chez lui pour tirer ses pronostics. Au bout de 3 heures, la reine, désireuse de savoir l'avenir qui attendait son fils, envoya chercher l'astrologue. Campanella revint. Il prétendit que les observations faites par lui sur le corps de l'enfant royal n'étaient pas suffisantes. Il le fit déshabiller de nouveau et l'examina une seconde fois. Enfin, pressé de formuler sa prédiction, il répondit en latin « Cet enfant sera luxurieux comme Henri IV. Il sera très fier. Il règnera longtemps et péniblement. Sa fin sera misérable et amènera une grande confusion dans la religion et dans le royaume. » L'ambassadeur de Suède, Grotius, écrivit à Oxenstiern le 12e jour de la naissance du dauphin. Le dauphin a déjà changé 3 fois de nourrice, car non seulement il tarit leur sein, mais encore il le déchire. Que les voisins de la France prennent garde à une si précoce rapacité. L'horoscope de Campanella s'accomplit. Les craintes de Grotius se réalisèrent. Pour suivre jusqu'au bout l'influence de Mademoiselle de Lafayette sur les destinées de la France, nous avons sauté par-dessus l'échafaud du duc de Montmorency. On a vu comment monsieur s'était tiré de l'affaire Chalet. Au lieu d'y perdre quelque chose, il avait, au contraire, gagné le titre de duc d'Orléans, de Chartres, de Montpensier et de Châtellerault, le titre de comte de Bois, le titre de prince de Dombes et de La Roche-sur-Yon, etc. Plus un apanage d'1 million donné par le roi, de 400 000 livres de rente apportées par sa femme. Il voulait savoir si, par le même moyen, il ne pourrait pas doubler tout cela. Donc il s'éveilla un beau matin, tout ému du traitement que le cardinal faisait subir à Marie de Médicis, prisonnière ou à peu près, fit demander les pierreries de sa femme pour les convertir en argent, disposa toutes choses pour quitter l'hôtel de Bellegarde où il était logé, et, suivi de 15 gentilshommes, il alla frapper à la porte du palais royal. Le cardinal, étonné de la visite du prince, s'avança au-devant de lui jusque dans les antichambres. « Monsieur, lui dit le duc, je suis venu pour vous dire que je ne pouvais ni ne voulais plus rester votre ami. Je quitte Paris et me retire dans mon apanage, où je saurai me défendre, sachez cela, monsieur. » Et laissant le cardinal tout stupéfait de cette boutade, il monta en voiture et partit, en effet, pour Orléans. Arrivé là, Gaston envoya de tous côtés des agents pour recruter une armée. Ces agents revinrent avec 20 hommes. C'était juste ce qu'il fallait pour faire tomber 20 têtes en grève. En même temps, le bruit courait que le roi en personne allait marcher sur Orléans. On conseillait à Gaston ou de faire la paix, chose facile car le roi l'a proposé lui-même, ou de sortir du royaume. Les conditions de la paix n'étaient point assez brillantes pour être acceptées par le duc d'Orléans. Il pensa qu'étant plus coupable, il obtiendrait des conditions plus avantageuses et prit le parti de quitter la France. Il se mit en route, escorté par une petite troupe de seigneurs des meilleures familles. Cette petite troupe était commandée par le comte de Moret, fils naturel de Henri IV, et par Louis de Gouffier, comte de Roanne. En traversant le pays, on criait « Vive monsieur, vive la liberté du peuple !» Il ne se fit aucun soulèvement, et cela pour 2 raisons. Le peuple savait déjà ce qu'était monsieur, il ne savait pas encore ce qu'était la liberté. Au reste, toutes les villes de la Bourgogne se fermaient devant le prince rebelle. Il n'y eut que Sœur qui lui ouvrit ses portes, parce que Sœur appartenait au duc de Bellegarde et que le duc de Bellegarde ne se crut pas le droit d'interdire à un fils de France l'entrée d'une ville qui était sienne. Là, il fut rejoint par le duc d'Elbeuf et par le comte et la comtesse de Fargis. Mais Gaston ne fit à Sœur qu'une halte d'un instant et se retira en Lorraine. Le roi marchait, pour ainsi dire, sur les talons de son frère. Il arriva derrière lui à Sœur et mit garnison et le 31 mars 1631 lança un défi par lequel tous ceux qui avaient accompagné le duc d'Orléans et particulièrement le comte de Moret, les ducs d'Elbeuf, de Bellegarde et de Roanne, le président Lecoupieux et M. de Puylaurens étaient déclarés coupables de haute trahison. Lorsque Gaston eut passé la frontière et que son intention de s'établir hors de France ne fut plus douteuse, le roi revint à Fontainebleau. Il y avait à peine quelques mois que ces fêtes étaient accomplies, lorsqu'on apprit à la cour que, par une belle soirée d'été, c'était le 18 juillet, un carrosse à 6 chevaux était sorti de Compiègne vers 10 heures du soir, qu'à la même heure, une dame accompagnée d'un gentilhomme s'était fait ouvrir une porte du château donnant sur le rempart, dans le but apparent d'aller prendre le frais, que le carrosse avait passé l'Oise sur un bac et que la dame sortie du château n'y était pas rentrée. C'est-à-dire que la reine-mère s'était enfuie pour aller rejoindre son second fils hors de France. 11 ans après, l'année même où mourait Richelieu, 1 an avant que mourût Louis XIII, elle expirait, misérable et manquant de tout, dans la maison de son peintre Rubens à Cologne. Quant à Gaston d'Orléans, qui faisait mourir les autres dans l'exil, il n'était pas si fou que d'y mourir lui-même. Son affaire avait perdu beaucoup de son importance. Chassé des états envahis du duc de Lorraine, il était poursuivi par le maréchal de la Force en France, où il était rentré. Sa présence remuait les provinces, mais ne les soulevait point. Langres lui avait fermé ses portes, le canon de Dijon avait tiré sur lui. Il avait traversé la Loire à Moulins, était entré dans le Bourbonnais et avait pénétré jusque dans l'Auvergne, lorsque tout à coup on apprit, avec un étonnement mêlé de douleur, que le duc Henri de Montmorency venait de se rallier à son parti et avait soulevé tout le Languedoc en sa faveur. Nous avons dit « avec un étonnement mêlé de douleur ». En effet, le duc de Montmorency était fort aimé et l'on savait déjà ce que risquaient les insensés qui embrassaient la cause de Gaston d'Orléans. Expliquons en quelques mots ce qu'était le dernier duc de Montmorency et tâchons surtout de le montrer à nos lecteurs sous son vrai jour et non pas tel que le montrent les historiens. Henri II, duc de Montmorency, était né à Chantilly le 30 avril 1595. Il avait donc 32 ans à peine lorsqu'il prit le parti pour le duc d'Orléans. Quoiqu'il eût les yeux de travers, il était d'agréable mine, et quoiqu'il eût la langue embarrassée, il avait le geste si gracieux que l'on cessait d'écouter ses paroles pour ne plus voir que sa pantomime. Souvent, il commençait un compliment ou un récit et s'arrêtait à mi-chemin. La première fois qu'il parut chez Madame de Rambouillet, il s'embarrassa tellement que ce fut le cardinal de la Valette qui, venant à son secours, acheva la phrase commencée. Mais pendant ce temps-là même, le duc continua si bien d'accompagner du geste ce que disait le cardinal qu'il eut tous les honneurs du compliment, quoique ce fût un autre qui l'eût fait. « Jésus !» s'écria le duc de Candale, fils aîné de M. d'Épernon, « que cet homme est donc heureux d'avoir des bras !» En outre, M. de Montmorency était riche, brave, galant, libéral, dansait à merveille, était très bien à cheval, avait des gens d'esprit à ses gages, faisait faire ses vers par Théophile et Méret, donnait beaucoup aux pauvres, étant ami de tout le monde et adoré de ceux qui l'approchaient. Un jour, il entend dans un salon un gentilhomme qui disait « Si je trouvais 20 000 écus à emprunter, ma fortune serait faite. » Il le tire à part. « Venez chez moi demain, monsieur, dit-il, j'ai à vous parler. » Le gentilhomme se rend à l'invitation et trouve les 20 000 écus comptés sur une table. 1 an après, ce gentilhomme, enrichi, les lui rapporte. « Gardez, lui dit le duc, les Montmorency ne prêtent pas, ils donnent. » L'autre, insistant, « Monsieur, ajouta-t-il, je suis récompensé par le plaisir que j'ai à voir un gentilhomme tenir sa parole. » « Gardez les 20 000 écus, vous me désobligeriez en me forçant à les reprendre. » Il envoya un jour à la marquise de Sablé, dont il était l'amant, une donation de 40 000 livres de rente en fonds de terre. Mais elle la lui renvoya, et plus sévère sur ce point que le gentilhomme aux 20 000 écus, rien ne put la lui faire accepter. Une femme qui refuse une donation de 40 000 livres de rente mérite bien qu'on s'occupe d'elle un instant. Nous reviendrons tout à l'heure à M. de Montmorency. Madeleine de Souvray, femme de Philippe-Emmanuel de Laval, marquis de Sablé, était fille du maréchal de Souvray, qui avait été gouverneur de Louis XIII. Elle était fort jeune lorsqu'elle vit pour la première fois M. de Montmorency, qu'elle aima passionnément. Il obtint d'elle un rendez-vous. Ce rendez-vous était donné dans une salle basse. Au lieu d'entrer par la porte, le duc, avec une agilité qui n'appartenait qu'à lui, bondit par la fenêtre. À partir de ce moment, elle fut prise et garda cet amour à peu près toute sa vie. Par malheur, M. de Montmorency était loin d'être aussi sentimental que sa maîtresse, et cette dissemblance dans le caractère amenait des refroidissements entre eux. Un jour que le duc revenait de son gouvernement du Languedoc, Madame de Sablé envoya un gentilhomme au-devant de lui à une demi-journée pour lui témoigner toute l'impatience où elle était qu'il fût près d'elle. Le gentilhomme trouva le duc et revint en disant « Madame, monseigneur n'est pas moins impatient que vous. »«
Mais où est-il ? » ?»«
Il va venir. »«
Pourquoi donc n'est-il pas venu tout de suite ?»
Madame, le lieu où il s'est arrêté pour dîner n'avait que de mauvaises auberges mal approvisionnées, de sorte qu'il a été contraint d'envoyer chercher deux perdrix qui les a fait plumer en sa présence, qui les a vus rôtir et les a mangés de grand appétit. Cela ne parut point à Madame de Sablé une grande marque d'impatience, et quoique le maréchal arrivât sur ses entrefaites, elle fut si piquée de son peu d'empressement qu'elle s'enferma chez elle et ne le voulut point voir. Elle était fort jalouse de M. de Montmorency, et il faut avouer qu'il y avait de quoi, car le duc était fort coquet. Seulement, elle était jalouse à tort et à travers. Un jour, elle lui reprocha d'avoir dansé au bal de la cour et d'avoir choisi les plus belles danseuses. « Eh, madame, lui demanda M. de Montmorency, vouliez-vous donc que je choisisse les plus laides ?»«
Certainement, monsieur, répondit-elle, c'était votre devoir. »
Après l'exécution du pauvre maréchal, elle devint une des plus grandes visionnaires du monde, surtout à l'endroit de la mort. Plusieurs fois, elle tomba malade de frayeur en entendant dire que la sœur, le frère ou la tante de celui ou de celle qui parlait avait eu la rougeole ou simplement la fièvre. Comme mademoiselle avait la petite vérole, M. de Nemours alla visiter la marquise.
« Ah, monseigneur, n'avez-vous point été assez imprudent pour aller chez mademoiselle ?»«
Justement, répondit-il.
« Je parie que vous y êtes monté, » s'écria la marquise pâlissant.
« Sans doute, je voulais parler à quelqu'un. »«
Et que vous êtes entré dans sa chambre ?»«
Non, une de ses femmes est venue au-devant de moi. »
« Et vous avez parlé à cette femme ?»«
Je montais pour cela. »«
Oh, sauvez-vous, monsieur de Nemours, sauvez-vous !»
Le duc s'en va. 10 minutes après, madame de Longueville arrive et trouve la chambre pleine de fumée. Madame de Sablé y avait brûlé tout ce qui peut chasser le mauvais air. Madame de Longueville voulait parler, mais la marquise n'écouta pas un mot de ce qu'elle disait, répétant sans cesse «
Avez-vous vu un homme aussi imprudent que M. de Nemours ?»
Quand il s'agissait de la saigner, c'était bien une autre histoire. Elle faisait d'abord conduire le chirurgien dans le lieu de la maison le plus éloigné de celui où elle couchait. Là, on donnait au praticien un bonnet et une robe de chambre. S'il avait un aide, on donnait à l'aide un pourpoint. Tout cela de peur qu'il ne lui apportasse le mauvais air. Un jour qu'elle était chez la maréchale de Guébriant, rue de Seine, près de l'hôtel Liancourt.
« Ah, dit-elle, ne vous étonnez pas que je reste si longtemps. Je suis empêchée de m'en retourner. »«
Et pourquoi cela ?»«
J'ai vu sur le pont Neuf un petit garçon qui a eu depuis peu la petite vérole. Il demande l'aumône. En le chassant, mes gens pourraient gagner le mal. »«
Mais alors, pourquoi ne vous en allez-vous point par le pont Rouge ?»«
Ah, bien oui !» La dernière fois que j'y suis passée, je l'ai entendu qui craquait.
Elle se décida enfin à s'en aller par le pont Rouge, craignant moins encore la chute du pont que la petite vérole. Il fut question de peste à Paris. Alors la terreur de la marquise n'eut plus de bornes. Elle crut avoir besoin d'une consultation, se sentant déjà malade. Elle fit, en conséquence, réunir 3 médecins, auxquels on donna à chacun une robe et un bonnet comme à l'ordinaire. Puis on les fit asseoir près de la porte d'une grande salle, à l'extrémité de laquelle était la marquise, couchée sur son lit comme une personne mourante. La dame de compagnie allait dire au médecin ce que sa maîtresse éprouvait et retournait ensuite transmettre à celle-ci les réponses de la faculté. C'était juste au moment où le fils de madame de Rambouillet venait de mourir de la peste. La belle Julie d'Angennes écrivait dans le même temps à la marquise, mais en prenant, bien entendu, toutes les précautions nécessaires. Voici du reste la lettre de mademoiselle de Rambouillet. Nous aimons à croire qu'elle fut écrite avant la mort de son frère, sans quoi elle ferait plus d'honneur à son esprit qu'à son cœur. Pourtant, nous devons l'avouer, le contenu de cette lettre laisse à penser qu'elle fut postérieure à la mort. La suscription portait d'abord ceci. Mademoiselle du Chalet,
c'était le nom de la demoiselle de compagnie de Madame de Sablé, lira, s'il vous plaît, cette lettre à Madame la Marquise au-dessous du vent. Puis la lettre contenait ce qui suit. « Madame, je crois ne pouvoir commencer de trop bonne heure mon traité avec vous, car je suis assurée qu'entre la première proposition que l'on vous fera de me voir et la conclusion, vous aurez tant de réflexions à faire, tant de médecins à consulter et tant de craintes à surmonter que j'aurai eu tout le loisir de m'aviser. Les conditions que je vous offre sont de n'aller point chez vous, que je n'ai été 3 jours sans aller à l'hôtel de Condé, de changer de toutes sortes d'habillements, de choisir un jour qu'il aura gelé, de ne vous approcher que de 4 pas, de ne m'asseoir que sur un seul siège. Vous pourrez ainsi faire un grand feu dans votre chambre, brûler du genièvre aux 4 coins, vous environner de vinaigre impérial, de rue et d'absinthe. Si vous pouvez trouver vos sûretés dans ces propositions sans que je me coupe les cheveux, je vous jure de les exécuter très religieusement. Et si vous avez besoin d'exemples pour vous fortifier, je vous dirai que la reine a bien voulu voir M. de Chaudebonne, qui sortait de la chambre de Mademoiselle de Bourbon, et que Madame d'Aiguillon, qui a bon goût sur ces choses-là et à qui l'on ne saurait rien reprocher sur de pareils sujets, vient me demander que, si je ne la voulais aller voir, elle viendrait me chercher. » On ignore si, malgré toutes ces précautions, la belle Julie d'Angennes fut reçue. Un jour, Madame la marquise de Sablé fit tirer son horoscope. « Quel âge avez-vous, madame ? » demanda l'astrologue. « 36 ans !» Elle en avait 42. L'astrologue parla tout bas à Mademoiselle de Chalet. « Que dit-il ? » demanda la marquise, qui, selon son habitude, se tenait à distance. « Madame, il me dit qu'il ne peut rien faire, qu'il ne sache votre âge au juste. »« il se moque, cet astrologue !» Puis, au bout d'un instant, « S'il n'est pas satisfait, je lui donne 6 mois de plus. Mais qu'il commence, il n'en aura pas davantage. » Avant d'emménager dans une maison, elle s'informait si personne n'y était mort. Un jour, elle résilia un bail en payant un gros dédit, parce qu'elle avait appris qu'un maçon s'était tué en la bâtissant. Elle se faisait sceller si souvent que l'abbé de la Victoire, Claude Duval de Coupeauville, prélat d'un esprit charmant, ne disait plus, en parlant d'elle, que « feu la marquise de Sablé ». Pour le coup, elle se crut morte et en demeura plus d'un an brouillée avec l'abbé de la Victoire. Sa meilleure amie était la comtesse de Maure, visionnaire comme elle. Elles étaient logées porte à porte pour se voir tout à leur aise. Mais comme, à la moindre indisposition de l'une, l'autre avait peur d'attraper quelque maladie mortelle, elles étaient quelquefois 3 mois sans se voir, s'écrivant 10 fois le jour. La comtesse de Maure tomba sérieusement malade. On comprend que, dès lors, toute communication directe fut rompue entre les deux amies. Seulement, chaque jour, Mademoiselle de Chalet, d'une fenêtre à l'autre, interrogeait les gens de la comtesse de Maure sur la santé de leur maîtresse. Il est vrai que Madame de Sablé avait bien recommandé, si Madame de Maure mourait, qu'on ne le lui dit pas. Enfin, celle-ci mourut. Chalet revint tout triste de son observatoire. « Eh bien, Chalet !» demanda la marquise. « Oh, madame !»« Est-ce qu'elle ne mange plus ?» Non. Ah, Chalet, elle est morte alors. Madame, répondit Chalet, souvenez-vous que c'est vous qui l'avez dit, et non pas moi. Un autre jour, elle entend un chant d'église dans la cour de son hôtel. Eh, madame, ce sont tous les enfants de cœur rouge et blanc de Paris. Mais que font-ils? Ils chantent un De Profundis. Pour qui? Pour vous. Comment pour moi? « Mais qui donc envoie ces petits misérables ?»« L'abbé de la Victoire. »« L'abbé de la Victoire ?»« Oui, ne vous voyons pas, il continue à soutenir que vous êtes morte et il prie et fait prier pour le repos de votre âme. »« Il est donc là, avec toute sa sainte marmaille ?»« Oui, madame. »« Eh bien, dites-lui que je lui pardonne, mais qu'il s'en aille, lui et ses maudits choristes. » « Madame, il dit qu'il ne sera sûr que vous êtes vivante que lorsqu'il vous aura parlé. »« Qu'il monte alors !» L'abbé monta, fut pardonné et renvoya ses enfants de cœur. Revenons à M. de Montmorency. Nous avons dit qu'il était fort coquet. Aussi donna-t-il bien du chagrin à la pauvre marquise de Sablé. Il aima d'abord la choisie, fille de bon lieu mais très galante, qui, quoiqu'ayant été mariée depuis, fit mettre sur son tombeau qu'elle avait été fort estimée des grands et avait eu l'amitié de plusieurs. Puis le duc fut amoureux de la reine. Mais Buckingham vint, sans dix regards, donner au milieu de cet amour et le dérangea fort. M. de Montmorency avait un portrait de son auguste bien-aimé et il faisait mettre à genoux les gens auxquels il le montrait. Un jour, il eut une querelle avec Bassompierre. Celui-ci dansait mal, M. de Montmorency s'en moqua. « Il est vrai, dit Bassompierre, que je n'ai pas tant d'espoir que vous dans les pieds, mais je me vante d'en avoir davantage ailleurs. » « En tout cas, répliqua le duc, si je n'ai pas aussi bon bec, je crois avoir meilleure épée. »« Oui, dit Bassompierre, vous avez celle du grand âne. » Et Bassompierre prononça le mot comme s'il n'avait qu'un N. Ils allaient se battre le lendemain, mais on les accorda avant qu'ils se séparassent. Monsieur de Montmorency eut une autre querelle avec le duc de Retz. Il avait été sur le point d'épouser Mademoiselle de Beaupréau, mais la reine fit rompre le mariage pour lui donner une de ses parentes qui était de la maison des Ursins. Plus tard, le duc de Retz épousa Mademoiselle de Beaupréau. La querelle vint de ce que, au lieu d'appeler son rival duc de Retz, M. de Montmorency l'avait appelé duc de Montrest. La duchesse de Montmorency était fort jalouse de son mari qu'elle aimait tendrement. Cependant, comme toutes les femmes couraient après son cher duc et qu'il en venait de la province rien que pour le voir, elle fit un marché avec lui. C'est qu'il aurait carte blanche pourvu qu'il lui racontât ses bonnes fortunes. Le marché fut non seulement fait mais tenu et la duchesse se consolait des infidélités de son mari en voyant, disait-elle avec orgueil, quelle grande dame il lui donnait pour rivale. Le duc était très brave, mais très médiocre homme de guerre, comme on le verra tout à l'heure quand nous raconterons l'affaire où il tomba entre les mains des troupes royales. Reprenons donc notre récit où nous l'avons laissé, c'est-à-dire au moment où l'on apprit que le duc venait d'embrasser la cause de Gaston d'Orléans. L'abbé d'Elbène, neveu de l'évêque d'Albi, était venu, de la part du prince, proposer à M. de Montmorency de se déclarer contre Richelieu. Il lui exagéra la gloire dont se couvrirait l'homme qui renverserait l'idole, lui promit l'épée du connétable, qui déjà quatre fois était entré dans sa famille, et lui montra les têtes encore sanglantes de Chalais et de Marillac, roulant au pied de l'échafaud. Montmorency adhéra. Seulement, il avait demandé le temps de faire des levées et de réunir un nombre d'hommes suffisant, lorsque tout à coup, il apprit que Gaston d'Orléans arrivait, poursuivi par deux armées. Gaston amenait environ 2000 hommes avec lui, et pour ces 2000 hommes, 8 ou 10 maréchaux de camp. Montmorency, quoique pris de court, ne voulut point faillir à la parole donnée. Il avait envoyé des émissaires en Espagne pour en tirer de l'argent et y lever des hommes. Car, à peine si, avec ce que lui amenait le duc d'Orléans, il avait 6000 soldats à opposer aux troupes royales. Encore était-il réparti entre Lodève, Albi, Uzès, Alès, Lunel et Saint-Pons. Deux armées, comme nous l'avons dit, poursuivaient le duc. L'une était commandée par le maréchal de la Force, l'autre par le maréchal de Schomberg. Montmorency résolut d'attaquer la première. Le 29 août 1632, il la joignit et prit aussitôt ses dispositions de combat. Monsieur était en personne près du duc de Montmorency. Alors le maréchal de Schomberg, n'oubliant pas que le cardinal de Richelieu n'était que ministre et pouvait tomber, songeant que le roi était d'une santé chancelante et pouvait mourir, qu'enfin monsieur contre lequel il marchait était l'héritier du trône, le maréchal de Schomberg, disons-nous, ouvrit une dernière négociation avec le prince et envoya Cavois pour parlementer. Mais le duc répondit « Combattons d'abord, après la bataille, on parlementera. » La journée du 31 se passa en reconnaissance mutuelle. Le 1er septembre, à 8h du matin, M. de Schomberg s'empara d'une maison qui n'était qu'à quelques portées de mousquet des premières lignes du duc de Montmorency et y logea une avant-garde. À cette nouvelle, le maréchal-duc prit avec lui 500 hommes, alla reconnaître l'armée de Schomberg et, se trouvant près de la maison occupée, chargea ceux qui étaient dedans, lesquels abandonnèrent aussitôt leur poste. M. de Montmorency revint vers son corps d'armée, tout joyeux de ce succès, qu'il tenait pour être de bon augure. Il trouva le duc d'Orléans qui l'attendait avec le comte de Moret, son frère naturel, et le maréchal de Rieux. Alors, s'avançant vers le prince, « Monsieur, lui dit-il, voici le jour où vous serez victorieux de tous vos ennemis, le jour où vous réunirez le fils avec la mère. Mais, ajouta-t-il, il faut que, ce soir, votre épée soit comme est la mienne ce matin, c'est-à-dire rouge jusqu'à la garde. » Le duc d'Orléans n'aimait pas les épées nues et surtout les épées sanglantes. Il détourna les yeux. « Eh, monsieur, dit-il, ne perdrez-vous donc jamais l'habitude de vos rodomontades ? Ce que vous avez fait ce matin ne préjuge en rien de la journée et nous donne tout au plus des espérances. » « En tout cas, reprit le maréchal, en supposant que je ne vous donne que des espérances, c'est plus que ne vous donne le roi votre frère. Car, au lieu de vous donner des espérances, il vous les ôte, toutes, même celles de la vie. »« Bah ! » fit Gaston en haussant les épaules. « Croyez-vous que la vie de l'héritier présomptif soit jamais en jeu ? Arrive qui arrive, je suis toujours sûr de faire ma paix pour moi et trois personnes. » Le maréchal sourit amèrement. « Bon, dit-il à mi-voix au comte de Moret et au maréchal de Rieux, voilà déjà notre homme qui saigne du nez. Il compte s'enfuir, lui, troisième. Mais ce n'est ni vous ni moi, n'est-ce pas, messieurs, qui lui serviront d'escorte ?» Les deux gentilshommes répondirent que non. « Eh bien, continua le maréchal-duc, joignez-vous à moi. Il faut que nous l'engagions, si, avant aujourd'hui, que nous ne le voyons l'épée à la main. » En ce moment, on vit annoncer qu'on voyait l'armée de Schomberg sortir du bois et se ranger en bataille. « Allons, messieurs, dit le maréchal-duc, voici l'heure, chacun à son poste. » Puis, voulant juger par lui-même de la force de l'ennemi, M. de Montmorency, tout couvert de plumes aux couleurs du duc d'Orléans, monta sur un cheval gris qui n'avait point encore fatigué, lui fit franchir un ruisseau et s'en alla jusqu'à 50 pas des lignes ennemies. Puis, lorsqu'il eut vu ce qu'il désirait voir, il revint vers ses hommes et prit le commandement de l'aile droite, laissant celui de l'aile gauche au comte de Moret. Presque aussitôt, les premiers coups de feu se firent entendre. Les deux généraux, qui ne devaient plus se revoir, se saluèrent une dernière fois avec leur épée et marchèrent à l'ennemi. Du côté du duc, l'affaire fut courte. Impatient de venir aux mains, il se met à la tête d'un escadron de cavalerie, franchit un fossé et se jette dans un chemin étroit où quelques gentilshommes seulement peuvent le suivre. Le comte de Rieux avait voulu le retenir, mais voyant la chose impossible, « Je vais vous suivre, monseigneur, dit-il, et au moins mourrai-je avec vous. » Il tint parole. À l'extrémité du chemin où Montmorency s'était si imprudemment engagé, l'infanterie était rangée en bataille. Le duc reçut le feu sans s'arrêter et quoiqu'une balle l'eût touché à la gorge. Au même instant, il se trouva en face de quelques chevaux légers du roi accourus à sa rencontre. D'un coup de pistolet, il cassa le bras de l'officier qui les commandait, mais qui, en même temps, lui logeait 2 balles dans la bouche. Sans s'occuper de sa triple blessure, le maréchal continua de pousser en avant. 2 des chevaux légers, le baron de Laurière et son fils, tentent de lui barrer le passage. Ils les culbutent tous deux, mais tous deux, en tombant, déchargent sur lui leur pistolet dont les balles lui labourent la poitrine. N'importe, il continue son chemin. Enfin, après avoir forcé le 7e rang, son cheval, criblé de blessures, s'abat et le maréchal-duc roule avec lui, perdant son sang par 10 plaies et jetant comme dernier cri de guerre son nom de Montmorency. Ainsi qu'on le voit, cette bataille, dite de Castelnaudary, fut à peine un combat. Pendant que le duc se faisait prendre, le comte de Moret se faisait tuer. L'engagement ne dura pas plus d'une heure. M. de Schomberg, dans son rapport, compte 8 morts et 2 blessés. Les 2 blessés et 4 des morts l'étaient du fait de M. de Montmorency. Le duc, tombé évanoui sous son cheval, en fut tiré par les soins d'un archer du roi. Lorsqu'il revint à lui, sa première parole fut pour demander un confesseur. Se croyant blessé à mort, il tira de son doigt une bague qu'il pria de remettre à la duchesse sa femme. On lui enleva d'abord son armure, ce qui le soulagea fort. Puis l'archer et quelques-uns de ses camarades le portèrent sur leurs bras jusqu'à une métairie voisine où l'aumônier du maréchal de Schomberg reçut sa confession. Un chirurgien vint ensuite qui lava et banda ses plaies. Après quoi on plaça une planche avec de la paille sur une échelle. Les gardes du roi y étendirent leurs manteaux et, sur ce brancard improvisé, portèrent le duc à Castelnaudary. Son arrivée dans cette ville, où il était adoré, occasionna presque une émeute et il fallut employer la violence pour empêcher la douleur populaire de devenir séditieuse. Lorsqu'on se fut assuré que les blessures du duc n'étaient pas mortelles, on s'occupa de lui faire son procès. Pour cela, on le conduisit à Toulouse. Mais les capitouls déclarèrent que, quelle que fût la garde que l'on donnât au maréchal, il ne pouvait répondre d'un prisonnier si cher au peuple. En conséquence, on l'enferma au château de Lectour, qui, pour le gouvernement, dépendait de la Guyenne, et pour la justice de Toulouse. Monsieur de Montmorency commença par récuser les juges qu'on lui voulait donner, disant que c'était au Parlement de Paris de faire son procès. Mais bientôt il eut honte, lui, soldat, d'engager cette lutte. « Bah ! Dit-il, à quoi bon chicaner ma vie ? Je serai aussi bien condamné à Paris qu'ici. » Alors il coupa sa moustache et sa cadenette, on n'en portait qu'une à cette époque, et les envoya à sa femme. Quant au duc d'Orléans, il avait, comme de raison, fait sa paix. Le 1er octobre, les conditions en furent ratifiées à Montpellier. Il avait bien un peu bataillé pour obtenir la vie de Montmorency, mais voyant que son obstination faisait traîner en longueur ses propres affaires, il avait cédé, abandonnant le pauvre maréchal comme il avait déjà abandonné Chalais. Cependant, on faisait de grandes instances près du roi en faveur de M. de Montmorency, mais le roi ne voulait entendre à rien. « Il faut que mon frère soit puni, » répétait-il. Étrange manière de punir Gaston d'Orléans que de couper le cou à Henri de Montmorency. Sollicité de tous côtés, le cardinal ne put s'empêcher de présenter un terme moyen. C'était de faire condamner le duc, mais de sursoir au châtiment, en se tenant néanmoins tout prêt à l'exécuter, dès qu'on aurait à se plaindre du duc d'Orléans, et cela sans autre forme que d'envoyer le grand prévôt faire sa charge au lieu où le prisonnier serait gardé. « Il est vrai, ajoutait le cardinal, que M. de Montmorency est d'une garde difficile. » Le roi trouva que ce serait trop d'embarras et décida que la justice aurait son cours. Le procès ne pouvait être long, le duc avouait tout. Amené sur la sellette, il déclara reconnaître la faute dans laquelle il était tombé, plus par imprudence que par malice, dont il avait maintes fois demandé pardon à Dieu et au roi, comme il faisait présentement. La cour rendit son arrêt. Cet arrêt dépouillait le duc de tous états, honneurs et dignités. Il le condamnait à avoir la tête tranchée sur un échafaud dressé en la place de Salins, déclarait les terres de Montmorency et de Danville privées à jamais du titre de pairie et réunies au domaine avec tous les autres biens du condamné. Le duc, au reste, avait demandé une singulière grâce qui lui avait été octroyée sans conteste, celle d'être traité, avant le jugement même, comme si l'arrêt eût été prononcé. En conséquence, on lui accorda un confesseur dès le second jour de son arrivée à Toulouse. Le père Arnoux, ancien confesseur du roi, disgracié 11 ans auparavant, avait été choisi par le duc. Il fut introduit près de lui et y resta jusqu'au moment de l'exécution. Montmorency demanda, en outre pour sa lecture, l'imitation de Jésus-Christ et se fit apporter quelques reliques. En même temps, comme s'il voulait rompre avec tous les souvenirs mondains, il se dépouilla de sa chaîne et de ses bracelets. Le roi hâtait le jugement tant qu'il pouvait. Il s'ennuyait à Toulouse et était pressé d'en partir. Cependant, l'arrêt prononcé, le père Arnoux implora 24 heures de sursis. Il lui fallait ces 24 heures, disait-il, pour achever de détacher le malheureux duc des choses de ce monde. C'était un simple prétexte, car le duc était parfaitement résigné. Mais tous les amis du condamné s'étaient donné le mot et devaient profiter de cette journée pour tâcher d'obtenir sa grâce. Par malheur, le roi s'était mis à l'abri des sollicitations en interdisant à tous les parents du condamné l'entrée de la ville où il se tenait. Madame de Condé, sœur du duc, tenta vainement d'arriver jusqu'au roi. Rebutée de tous côtés, elle se retira dans une chapelle où elle demeura jusqu'au soir en prière. Le duc d'Angoulême, qui devait sa liberté à M. de Montmorency, écrivit au roi pour implorer sa clémence. Un gentilhomme du duc d'Orléans, porteur d'une lettre suppliante écrite par son maître, se jeta par trois fois aux pieds du roi, pleurant et baisant le bas de son manteau. Mais prières et larmes furent inutiles. Le cardinal de la Valette, le duc et la duchesse de Chevreuse, impitoyablement repoussés, forcèrent le duc d'Épernon de supplier pour eux. Le vieillard, avec ses cheveux blancs et sa barbe blanche, s'agenouilla devant Louis XIII et le pria de pardonner au duc de Montmorency le crime dont lui-même, duc d'Épernon, s'était rendu coupable, donnant sa fidélité présente comme exemple de ce que pouvait produire le pardon. Le roi resta les yeux baissés, les sourcils froncés, le visage morne, et ne répondit pas plus que s'il eût été sourd et muet. Enfin, desserrant ses lèvres blêmes et serrées par la colère, « Retirez-vous, monsieur, » dit-il au duc. Le vieillard joignit les mains avec un geste suppliant. « Retirez-vous, » répéta le roi. Le duc se retira. Dès lors, tout le monde vit bien qu'il fallait s'adresser non plus au roi, mais à Dieu, et qu'un miracle seul pouvait sauver le condamné. Ramené à l'hôtel de ville, et pendant qu'on délibérait encore, le maréchal-duc écrivit à sa femme une lettre d'adieu, lui envoya un état de ses dettes, une espèce de testament en faveur de ses domestiques et des gentilshommes de sa maison, puis, enfin, la pria de faire don de trois tableaux précieux qu'il possédait à trois légataires différents. L'un de ces tableaux était pour sa sœur, la princesse de Condé, l'autre pour la maison professe de Saint-Ignace, et le troisième, chose étrange, pour le cardinal de Richelieu. C'est ainsi que ceux que l'on invitait à s'ouvrir les veines, sous Caligula et sous Néron, ne manquaient jamais de laisser quelques legs précieux à l'empereur qui les faisait mourir. Ces soins accomplis, le duc quitta l'habillement qu'il portait et en prit un de toile blanche qu'il avait fait préparer d'avance pour son dernier jour. Puis il écrivit encore deux lettres, l'une au cardinal de la Valette, l'autre à la princesse de Condé, et fit quelques nouvelles dispositions pour ses serviteurs. On vint alors, au nom du roi, et comme c'était l'usage en pareille occasion, demander au condamné le bâton de maréchal et le collier de l'ordre qu'il remit aussitôt en se préparant à descendre à l'étage inférieur pour y entendre l'arrêt de la cour. En ce moment, le lieutenant des gardes qui commandait à l'hôtel de ville fut mandé de la part du roi. Tout le monde crut que sa majesté faisait grâce et il y eut un murmure de joie qui se répandit jusque sur la place. Le lieutenant, plein d'espoir, arriva tout courant au logis du roi et trouva le maréchal de Châtillon suppliant à son tour en faveur du malheureux duc. Le roi resta inébranlable. Seulement, ayant égard aux prières d'un de ses serviteurs pour que l'exécution du duc se fît en un lieu particulier, ainsi qu'il fut autrefois accordé en semblable cas par son très honoré père, que Dieu absolve, il permit, comme Henri IV avait fait pour Biron, que Montmorency eut la tête tranchée dans la cour de l'hôtel de ville de Toulouse. L'officier retourna vers le condamné et, en le voyant de loin revenir morne et silencieux, on comprit que toute espérance était perdue. En effet, il apportait pour toute grâce celle que nous avons dite. L'heure était donc arrivée. Le lieutenant trouva le prisonnier au milieu des gardes et s'entretenant avec le père Arnoux. Il le fit descendre dans la chapelle. Montmorency, un crucifix à la main et couvert d'une méchante casaque de soldat jetée sur son linceul de toile, alla droit à l'autel, y fit sa prière, puis entendit à genoux la lecture de sa sentence. Pendant ce temps, l'officier tentait un dernier effort. « Je vais rendre compte au roi, » avait-il dit. « Attendez mon retour avant d'aller plus loin. » On attendit son retour. Il rapportait au bourreau l'ordre de faire son office. Le duc, alors, donna ses mains à lier, son cou à dépouiller, ses cheveux à couper. Il avait les cheveux longs et flottants sur les épaules, suivant la mode du temps. La seule recommandation qu'il fit à l'exécuteur pendant cette opération suprême que notre époque railleuse a appelée la toilette fut celle-ci. « Mon ami, veillez, je vous prie, à ce que ma tête ne roule pas jusqu'à terre. » Puis, toujours s'entretenant avec le père Arnoux, il sortit de la chapelle et s'avança vers l'échafaud dressé dans la cour de l'hôtel de ville dont les portes étaient fermées. Sans s'arrêter, il monta les degrés d'un pas ferme, se mit à genoux et posa la tête sur le billot. « Au-dessus du billot, dit la relation, était suspendue une sorte de doloire tenue entre deux ais de bois et attachée par une corde qui, en se lâchant, la faisait tomber. Cependant, comme le duc s'était mal placé ou que, dans la position prise, ses blessures le faisaient souffrir, « Attendez, » dit-il au bourreau, et il se plaça autrement. Puis, faisant signe qu'il était prêt, « Domine Jésus, » murmura-t-il, « Accipe spiritum meum. Seigneur Jésus, recevez mon âme. » La corde fut lâchée et la tête séparée du corps. C'était un essai de notre guillotine moderne. Aussitôt la tête tranchée, et l'exécuteur, fidèle à la recommandation faite, avait eu soin, en la retenant par les cheveux, d'empêcher qu'elle ne roulât à terre. Aussitôt la tête tranchée, disons-nous, on ouvrit les portes, les soldats sortirent de l'hôtel de ville, et le peuple s'y précipita. Ainsi s'accomplit la prédiction de Nostradamus, exprimée dans ces deux vers de ses centuries. Neuve obturée au grand Montmorency, hors lieu prouvé, des livres à claire peine. Neuve Castelnaudary, qui en patois veut dire forteresse neuve. Obturée, fermée. Prouvée, publique. Manière de prononcer les arrêts de mort au Parlement de Toulouse. La pauvre veuve, en recevant la lettre et les cheveux de son mari, se retira au couvent de la Visitation de Moulins, dont elle mourut supérieure, le 5 juin 1666. Elle y pleura tant, dit Almandéréo, que, de voûtée qu'elle était devenue d'une grande fluxion, elle redevint droite comme auparavant. Sa fluxion s'était écoulée par les yeux. Méret, en lui dédiant une tragédie, lui donne la qualité de très inconsolable princesse. Elle fit élever un tombeau magnifique à son mari. Ce tombeau existe toujours à Moulins et à son double dans la galerie de Versailles.